ben, il a retrouvé les planches contact qu'il n'a jamais oubliées, de ce jour qu'il n'a jamais oublié, et il m'a dit « J'aimerais que tu racontes cette histoire. » Et en fait, elle tient pas grand-chose cette histoire.
Comment se fabriquent les textes? Quels usages faisons-nous de la littérature? Quels sont les matériaux de l'écriture? Pourquoi des livres et pas des affiches, des bouts de carton, des tickets de métro ou simplement des murs? Comment choisissons-nous de raconter nos histoires? Quelles tactiques inventons-nous pour nous dégager des mots d'ordre? Comment nous débrouillons-nous avec le langage? Que cherchons-nous en écrivant? Pour démêler toutes ces questions, il nous faudra du temps. D'ailleurs, à ce sujet, Mona Chollet note que le thé représente du temps à l'état liquide, chaud et parfumé. Alors mettez de l'eau à bouillir parce que c'est l'heure du thé. Ce jour-là, il pleuvait. Il flottait dans l'air une odeur de cannelle. On a secoué nos pèlerines et enlevé nos masques pour écouter Célia Oudard.
Je me suis embarquée dans un portrait, mais sans enregistrement. C'est-à-dire que je n'ai pas enregistré la voix de la personne qui m'a parlé. Mais j'ai pris des notes. Alors, quelle est l'histoire de cette commande? C'est une histoire de voisinage, on peut dire, parce que voilà. Alain Fontrait, photographe, est mon voisin. Et je l'ai connu il y a longtemps, dans les années 98-2000, à l'époque où je faisais du théâtre. Alain était et est toujours photographe de théâtre. Pour ceux qui connaissent un peu le théâtre, c'est le photographe d'Olivier Py, mais aussi d'Éric Vignier. Et il a travaillé au tout début avec le théâtre du Campagnol, avec un metteur en scène qui s'appelait Jean-Claude Pinchenat. Alors ça, son importance, parce qu'il m'en a beaucoup parlé, parce que Jean-Claude Pinchenat et le Campagnol sont surtout connus pour avoir monté un spectacle qui s'appelle Le Bal, qui ensuite a été adapté par Ettore Scola, qui est un très beau film que j'ai vu à sa sortie quand j'avais 13 ans. Et j'en parle parce que ce que je vais vous raconter est l'histoire d'une journée particulière dans la vie d'Alain Fontrait. Alain Fontrait qui a été photographe de plateau pour Pinchenat, mais aussi pour Ettore Scola au moment du bal. Et il y a une quinzaine de jours, je me suis dit que ça pourrait être une journée particulière, le titre du texte auquel je travaille. Alors, il y a 2 ans, Alain Fontrait, il faut que je le décrive, qui est un monsieur qui a un peu plus de 70 ans, qui marche un peu lentement dans la rue, qui est un peu gros, qui souffle. Quand il parlait du souffle, je pensais à lui aussi. Une silhouette comme ça d'un bonhomme un peu ralenti, mais très contemplatif, qui s'arrête pour regarder autour de lui, tout ça. Moi, je l'ai connu, il était déjà un bonhomme rond qui prend son temps et qui surtout est dans l'ombre du plateau, de gens assez connus et qui est un grand contemplatif comme ça, alors du monde du spectacle, mais du monde en général. Et ce monsieur, le matin, va prendre son café et lire son journal. C'est quelqu'un que je croise donc régulièrement le matin et on se salue et on prend des nouvelles. Et donc, c'est un moment qu'on se fréquente. Et quand je fais des lectures dans mon quartier, à la librairie, il vient et on discute et tout ça. Mais voilà. Et puis un jour, il me dit « il faut que je te parle d'un projet bon. ». Et puis c'est tout. Et puis on se revoit un autre matin et il me dit « il faut que je te parle d'un truc ». Et en fait, il a mis un temps fou avant réellement de prendre rendez-vous avec moi, parce que je lui avais donné mon numéro, mais il ne m'appelait pas. Il y a déjà tout un... Et ça, je vais aussi le raconter. J'ai commencé à le raconter, à l'écrire. Tout ce temps de presque de... Ça a créé un vrai suspense pour moi. Enfin, je me demandais ce qu'il voulait me raconter. Et je crois que ce moment-là a dû être nécessaire pour lui. Et il m'a fait comprendre ou prendre la mesure que cette chose devait être importante pour lui, pour qu'il prenne tout ce temps, ou difficile, ou en tout cas, c'était pas rien. Et je pense que ça a eu son importance. C'est avant, tout ce suspense. Il a fini par me proposer un rendez-vous et dans un café qui s'appelle le Zéphyr et qui est devenu l'endroit où on s'est revus régulièrement pour évoquer ce projet plus précisément. Et c'est devenu, alors je ne lui ai pas dit comme ça, mais je me suis dit que ça allait être même j'en ai fait presque un lieu de travail, puisque j'ai commencé à prendre des notes quand on se voyait et à susciter des rendez-vous ou à me laisser faire quand Alain me donnait rendez-vous. Et parfois pas pour me dire grand-chose. C'est ça qui est un peu... Petit à petit, j'ai appris aussi à passer des moments où il ne se passait pas grand-chose et de laisser venir comme ça dans le creux des silences, des moments où... Bon, il faut quand même que je vous parle de son projet. Donc son projet tient en pas grand-chose. Et c'est ça aussi qui est très intéressant pour moi. Il m'a juste dit, écoute, voilà... Dans les années 90, alors ça commençait déjà à être flou, et j'étais étonnée qu'une chose aussi importante soit aussi floue dans la façon dont il m'en parlait. En tout cas, l'impossibilité de dater ce jour m'a un petit peu surprise. Il me dit, voilà, dans les années 90, dans un café qui s'appelle le Petit Suisse, qui est un café près de l'Odéon, à Paris, près du jardin du Luxembourg, en face du Luxembourg, je prenais des photos d'une actrice qui s'appelle Raphaël Gitlis, donc... Parce que parallèlement à son activité de photographe de plateau, comme beaucoup de photographes de théâtre, Alain a fait des photos pour des books de comédiens. Raphaël Gitlis, qui est une comédienne, je ne sais pas, qui doit avoir un peu plus âgée que moi, mais à l'époque, donc faisait des photos avec Alain dans ce café. Et à la fin de la séance de photos, un type se lève, s'approche d'eux et leur demande s'il peut les prendre en photo, mais avec l'appareil d'Alain. Alain dit pourquoi pas, Raphaël aussi. Il lui explique au type comment utiliser son appareil. Le type lui dit, c'est bon, ça va, merci. Il n'insiste pas. Le type les prend en photo, rend l'appareil d'Alain, va se rasseoir, et il s'en va avec une femme rousse avec qui il était voilà, assis. Sauf qu'après, arrive la femme rousse en disant à Alain et Raphaël, « Faut quand même que je vous dise, savez-vous qui vous a pris en photo ? C'est Richard Avedon. » Et là, Alain est presque gêné de ne pas avoir reconnu Richard Avedon, qui, dit-il, est son idole comme photographe. Et Alain court après la femme rousse et au passage piéton s'adresse à Avedon en lui disant « Je suis vraiment désolée, je ne vous ai pas reconnue. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je suis moi-même photographe d'acteur. Est-ce que moi, je peux vous prendre en photo ?» Et Avedon, là, alors maintenant que je lis sur Avedon, que j'ai pris contact avec une ancienne assistante qui me parle un peu de Richard Avedon, qu'elle appelle Dick. Dick n'est pas un type, a priori, très sympa, très généreux, qui prend en photo des gens avec leur appareil, qui accepte qu'on le prenne en photo. Tout ça, apparemment, en effet, est assez exceptionnel. Et Avedon teste Alain. Qu'est-ce que vous aimez de mes photos ? Qu'est-ce que vous aimez comme photo ? Et Alain lui dit, du tac au tac, le torse de Andy Warhol. Alors, là, Avedon a apparemment est surpris. C'est pas du tout la photo connue de lui. il a pas mal exposé déjà, c'est déjà une vedette à l'époque, je crois. Mais alors le torse de Andy Warhol, je l'ai découvert après coup, en France n'a circulé que dans une revue qui s'appelle Égoïste. Ça a fait la couverture d'Égoïste. Mais en fait, Alain m'a raconté après, le torse de Warhol auquel pensait Alain, c'est pas la photo qui fait la couverture, c'est une photo à l'intérieur où on ne voit même pas la tête de Warhol, c'est que le torse, c'est un blouson en cuir ouvert comme ça, il y a une sorte de pull qui est monté, et en fait on voit le torse d'Andy Warhol qui, le 10 juin 68, a reçu 2 balles qui ont traversé son torse de part en part. Il a été victime d'un attentat, on peut dire, d'une féministe qui s'appelle Valérie Solanas, dont il était proche. Alors voilà, je fais des recherches aussi là-dessus depuis. Je vous raconte les choses pas du tout dans l'ordre de mon texte actuel, mais je vous raconte l'histoire, au fond, c'est ça.